Les maîtres de grave étaient des personnels de surveillance, hein, des graviers, souvent qui n'étaient pas de la même origine géographique que les petits graviers. Les petits graviers bretons pouvaient être surveillés par les maîtres de grave basques, qui souvent étaient armés, souvent avaient un passé plus ou moins militaire ou plus ou moins de repris de justice, et on sait qu'ils pouvaient être très violents. Ils avaient des matraques, des poings américains, des pistolets, pour les pousser au travail, quoi.
Moi, je pense qu'il y a eu des décès par mauvais traitement et il y a eu des décès aussi par usure, en fait, au retour. Mais quelquefois, les graviers n'étaient pas non plus tous des enfants de cœur. Il pouvait y avoir aussi des meneurs et des violences au sein même du groupe, hein.
Ils parlaient breton en arrivant le plus souvent, et il leur arrivait souvent d'apprendre le français à coups de trique, parce qu'ils ne comprenaient pas forcément les ordres qu'on pouvait leur donner pour faire telle ou telle tâche. Le français pouvait rentrer à coups de pied ou à coups de trique, quoi.
La question de la langue est importante. Ils ne pouvaient pas argumenter en français, ils ne pouvaient pas revendiquer et se défendre, parce que, en fait, se défendre, ça passe aussi par la langue. Et c'était aussi un instrument d'oppression, quoi. Ils ne pouvaient pas non plus écrire des lettres pour la majorité d'entre eux. Il y avait quand même des échanges de courriers. Mais au départ, les échanges de courriers étaient reçus par les armateurs, les courriers venant de métropole ou envoyés d'ailleurs, et étaient ouverts. Et donc, il n'y avait pas du tout de secret. Et donc, les graviers, ayant repéré ça assez vite, passaient par une structure qui s'appelle les œuvres de mer, et qui était une structure indépendante, humanitaire, de nature religieuse. Et les armateurs l'ont très très mal pris. Ils ont voulu faire croire que les œuvres de mer encourageaient l'alcoolisme parce que les graviers recevaient de l'argent dans les lettres. Et il est arrivé que des pères de famille leur demandent de l'argent à eux. Donc les courriers, quelquefois, brisent le cœur, hein. C'est pas forcément des courriers extrêmement rassurants, et il peut arriver sans doute que certaines lettres aient été reçues et aient découragé des jeunes de rentrer, quoi. En ce qui concerne les affaires maritimes, il y avait des gens qui s'offusquaient sincèrement, qui étaient une infime minorité, hein, et qui pouvaient être mutés ou découragés très vite. Il y en avait qui intervenaient malgré tout quand les dépassements étaient trop visibles, quand certaines lignes rouges étaient franchies, quand il y avait des abus trop flagrants de la part des armateurs et qui donc rappelaient la loi quand même, parce que c'était leur travail. Et puis il y en a d'autres qui fermaient les yeux et qui recevaient des doléances de la part des graviers dans des cas extrêmes, et aussi bizarrement des armateurs qui se plaignaient de la paresse ou de la mauvaise volonté de leurs employés. Et qui donnait plutôt raison au pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir économique, aux armateurs. Et quand il y avait des abus de la part des armateurs, mais qui touchaient essentiellement à des questions d'argent, pas à des questions de maltraitance sur les graviers, mais au fait, par exemple, que les armateurs touchaient une prime à chaque fois qu'ils employaient un gravier. Et il y avait énormément d'emplois fictifs, hein, où plusieurs armateurs employaient le même gravier. Ils étaient dans plusieurs listes, les mêmes. Ou alors, il y en avait qui s'arrangeaient pour faire entrer des gens de Saint-Pierre dans les listes de graviers, ce qui est impossible, parce qu'il fallait d'abord, d'après la loi, qu'ils aient traversé l'Atlantique pour que les armateurs puissent toucher la prime. Et donc, il y avait des arnaques à la prime, comme ça, et là, les affaires maritimes réagissaient fortement. Mais elles ne réagissaient pas devant la maltraitance des enfants. Quand il revenait, il n'y avait aucune trace. Tout était refoulé, tout était occulté. Enfin, je veux dire que le silence, il venait aussi des gens qui avaient vécu ça. Ils n'avaient pas envie d'en parler, de dire ce qu'ils avaient souffert. Ils n'avaient pas envie non plus d'en parler en famille, parce que personne n'était innocent dans cette histoire. Enfin, surtout pas les parents, à certains égards, même si la grande coupable, c'était la misère ambiante. Donc, il y avait une omerta là-dessus. Ces enfants, une fois revenus, intériorisaient la souffrance, voire la honte qu'ils avaient eue à être des victimes, en fait.
Une des seules traces qui existent à l'époque, c'était le travail de l'écrivain Charles Le Goffic, qui a fait, lui, son journaliste et son enquête à l'époque, ayant entendu parler de ce qui se passait, a interviewé quantité de jeunes graviers qui rentraient à la fin de la saison, et c'est ce qui lui a permis de décrire par le menu comment se déroulait le recrutement, le voyage, le séjour et le retour des petits graviers. Et c'est les écrits par lesquels on a le plus de détails sur la manière dont ça se passait au tout début du XXe siècle, puisque c'est paru sous le titre « Une traite d'enfants au XXe siècle », c'est paru en 1903.
Il y a quelques bribes de films, il y a des photos, mais évidemment tout cela ne concerne que ce qu'il a permis de montrer en fait. On les voit au travail, toujours un petit peu dans les mêmes situations, en train de retourner la morue sur la grave, mais on ne les verra jamais dans leur lieu de séjour, dans les taudis où ils dorment, on ne les verra jamais à fond de cale. Je veux dire que ça, il n'est pas question de prendre ce genre de photographie.
Très certainement que c'est un oubli volontaire de ces pages de l'histoire. Personne s'était pas glorieux à l'époque, même si on a eu des lanceurs d'alerte comme Charles Le Goffic, Théodore Botrel, qui jouait de la bretonitude avec un peu de folklore, a lui aussi été lanceur d'alerte avec une chanson sur les petits graviers, hein, qui était beaucoup plus grave que tout le reste de son répertoire. Il décrivait lui aussi le sort des petits graviers, leur travail et ce qu'ils enduraient. D'ailleurs, ça a tellement été oublié qu'on en a la preuve avec cette chanson. La chanson des petits graviers, Théodore Botrel, a été au fil des ans transformée dans le patrimoine maritime et culturel en petit gabier. Tel que c'est chanté par beaucoup de chants de marins, maintenant par beaucoup de groupes de chants de marins, c'est devenu les petits gabiers. Et on parle des petits gabiers de Terre-Neuve, on parle des marins. Mais même ce côté patrimonial a oublié qu'à l'origine, on parlait bien des petits graviers, ceux qui travaillaient sur les graves à terre. Donc c'est bien la preuve que c'est pas seulement un effacement volontaire qui existe pour partie de cette histoire, mais que c'est aussi des générations de pêcheurs, d'armateurs qui ont oublié cette histoire. La durée d'exploitation des petits graviers a duré grosso modo un siècle. Ça a démarré à partir du moment où Saint-Pierre et Miquelon est devenu définitivement français, où les armateurs français se sont vraiment installés. Donc à partir de 1816, ça s'est vraiment généralisé à la fin du 19e et au début du 20e siècle, où là ça a battu des records de fréquentation. On parle certains étés, certaines saisons, de 3000 petits graviers qui venaient sur l'archipel quand même. Et ça a duré tout ça jusqu'à la fin de la pêche à la marine à voile, la fin des goélettes moritières. À partir du moment où on est allé vers des chalutiers motorisés, le traitement du poisson est devenu différent, et on a même vu arriver de la congélation à bord. Donc il n'était plus question de faire sécher le poisson à l'air libre. Même les derniers poissons séchés l'ont été avec des sécheries mécaniques, en fait. Donc on n'avait plus besoin des petits graviers, ou alors d'une manière assez vraiment très marginale, à partir des années 30, en fait.
Le temps des goélettes est venu. Le temps drame est venu qu'un romantisme trompeur a voulu teinter de poésie. Figure légendaire d'hommes qui n'ont pas le choix entre la prudence et la plus folle témérité. Les dernières goélettes ont complètement disparu depuis la dernière guerre. Elles étaient superbes, dit-on, chargées de voiles. Mais un grand chalutier moderne, c'est aussi très beau.
Maintenant, tout le monde se demande, mais comment on a pu faire passer par les oubliettes le sort de tous ces enfants? Donc, je pense que tout le monde est prêt à assumer, même les descendants d'armateurs, maintenant, de la même manière que la traite négrière a mis beaucoup de temps à être assumée, on vient de redécouvrir l'histoire des petits graviers, chapitre oublié, effacé de l'histoire de la grande pêche. Je pense que tout le monde est prêt à entendre cette histoire et je dirais même que tout le monde est un peu choqué, bouleversé de la découvrir ou de la redécouvrir.
Le prénom Alexis, c'était le sien, c'était celui de mon père, c'était le mien. Et c'est moi qui ai arrêté la tradition, en fait. La psychologie a beaucoup évolué ces derniers temps et on est arrivé à l'idée qui semble tout à fait acquise sur le plan scientifique qu'il y aurait des traces génétiques des traumatismes reçus par les générations précédentes et qu'on pourrait hériter ainsi de traits de caractère qui ne sont pas passés par l'éducation, qui ne sont pas passés par la transmission, mais qui ont été un petit peu transmis par une forme de génétique, en fait, par une forme de mémoire cellulaire. Qui, à mon avis, est réel. C'est pas du tout une sorte de délire de dire ça, je pense pas. Il y a quelque chose, mais qu'on ne soupçonne pas avant d'avoir fait la recherche en elle-même. Et à cet égard, c'est vrai que cette recherche m'a fait comprendre un certain nombre de mes traits de caractère, alors qu'ils sont peut-être pas uniquement liés à mon grand-père, mais qui sont totalement compatibles avec son histoire, et en particulier son histoire comme gravier. Mais bon, ça s'est pas énormément amélioré par la suite quand il a été pêcheur, d'autant plus qu'il a fait la Première Guerre mondiale où il a été gazé, et puis enfin bon, sa vie a été quand même difficile. Et je pense que certains traits de caractère tiennent à ça, des traits de liés à une forme de résistance aussi, d'essayer de surmonter les difficultés par soi-même. Ça veut dire qu'on prend beaucoup sur soi et qu'on communique pas assez avec des gens qui pourraient nous aider. Et puis bon, la soif de l'aventure, d'une manière plus positive, ça c'est clair. Et elle a été transmise aussi à mes fils, quoi. Ça va tellement loin que j'ai passé donc 18 hivers à Saint-Pierre-et-Miquelon et 18 printemps qui sont presque comme des hivers. Et je pensais pas tellement aux conditions de travail des graviers à ce moment-là. Je vivais les hivers, mais d'une autre façon. Je les vivais comme des moments magiques, je dois dire, parce qu'il y avait quand même la chaleur des bulles de ces maisons qui sont des maisons de bois plutôt bien construites. Donc et donc il y avait un côté conte de fées russes, quand il y avait de la neige partout, etc. Donc et quand je parle de neige, la neige, elle était toujours là au mois d'avril quand les graviers arrivaient. Donc il y a quand même toute une mythologie des pays froids qui sont associés à l'aventure, à une forme de, je sais pas, de pureté qui est d'abord celle de l'atmosphère. Enfin, et ça fait rêver, les pays froids. Et moi, en tant qu'écrivain, j'aime beaucoup ces horizons parce que ce sont comme des pages blanches, en fait. On peut tout projeter dessus. Pour moi, ce sont des horizons très, très vides, mais sur lesquels on peut projeter un imaginaire, on peut projeter énormément d'images poétiques. Et ils sont pas surchargés, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est un peu des lieux où il y a une forme de renaissance, en fait. Et je pense que ces enfants, parce que bon, ça correspond aussi à des rêves d'enfants, tout ça. Eh bien, ils y allaient aussi pour y trouver quelque chose, quoi. Quelque chose qu'ils n'avaient pas dans leur vécu antérieur, quoi. Et j'ai été au contact de ces paysages de Graves qui sont uniques au monde aujourd'hui. Hein. Il n'y a que là qu'on voit ces champs de pierre qui ont servi à sécher la morue et qui me bouleversaient. D'autant plus qu'il y a ce contraste entre la dureté de ce travail et les paysages en général de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont extrêmement beaux. Donc j'en ai été tout le temps conscient, oui. Mais je dois dire que je n'ai pas vraiment fait un travail d'approfondissement lorsque j'y étais, malgré le fait que j'y ai vécu 18 ans à Saint-Pierre. Mais j'en étais conscient quand j'allais sur les lieux. Mais c'est au retour hein, que j'ai choisi vraiment de creuser la question. J'ai appris que mon grand-père était gravier à Saint-Pierre-et-Miquelon après avoir décidé d'y aller, en fait. Parce que c'est ma tante qui me l'a dit, donc sa fille, enfin la jeune sœur de mon père, elle me l'a dit à la veille de mon départ, en fait. Donc quand je suis arrivé là-bas, je le savais, et je n'y allais pas sur les traces de mon grand-père. Mais j'ai retrouvé partout les traces de mon grand-père. J'étais pas sur ces traces, mais j'ai sans arrêt retrouvé sa présence. Ce qui prouve que, en fait, on suivait la même logique. Et c'est aussi ça qui m'a appris des choses sur moi-même. Mon fils, il est guide nature. Il mène des groupes dans la nature sauvage de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi de Terre-Neuve. Il dit que ça a renforcé sa volonté de rester à vivre à Saint-Pierre et d'y faire des choses. C'est-à-dire d'y construire un avenir, le sien, mais aussi celui de l'archipel, d'une certaine façon. Donc collaborer à quelque chose qui le dépasse. Ça aide à dissiper l'oubli. On ne rajoute pas à la douleur qu'ont vécu ses enfants un oubli qui serait comme une double peine, en fait. Mais que grâce à tout ça, justement, ça rend l'avenir meilleur.
C'était le bagne des enfants bretons à Saint-Pierre-et-Miquelon, second épisode. Avec l'écrivain Alexis Glouaguin et le réalisateur Laurent Giraudino, auteur du documentaire Petit Gravier de Saint-Pierre. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.